L'Église continue à affirmer, comme elle l'a toujours affirmé, que la vie de la personne humaine est une réalité mystérieuse, transcendante, c'est-à-dire qui nous dépasse, et que la logique de la puissance, de la maîtrise, ne suffit pas pour décider dans ce domaine-là.
Comment expliquer qu'à chaque fois qu'un nouveau cas se produit, la question de l'euthanasie soulève de cette manière-là, entre guillemets, les passions ?
De toute évidence, il y a une logique de lobbying et de médias, là, évidente, n'est-ce pas ? Parce que des situations comme celle de Mme Sebir, il en existe des dizaines par semaine, tout le temps, c'est permanent. Hein ? Et brusquement, donc, on monte une situation en épingle, on voit très bien à l'œuvre donc, le lobby de l'association pour mourir dans la dignité, dont fait partie son avocat, je crois son médecin, et donc ce lobby, maintenant que l'affaire Humbert est un peu épuisée, eh bien donc tous les 6 mois, tous les ans et demi, relance la campagne en mettant sur le devant de la scène un nouveau cas.
Est-ce qu'il faut y voir au sein de la société une nouvelle conception de la mort, une volonté de contrôler la vie ?
Collectivement, je ne sais pas, parce qu'en même temps, donc, les soins palliatifs se développent, le respect, l'accompagnement des mourants sont aussi une réalité chez nous. La logique de la maîtrise et de l'évitement à tout prix de la douleur est fascinante. Et puis, il y a un côté fascination par l'émotion, parce que manifestement, le lobby là, donc, fait en sorte que tous les jours, à l'écran, passe quelques secondes, le visage de cette Madame Sebir. Il est évident qu'à l'instant où on le voit, on est effrayé, et il y a une partie de soi qui dit « Oh là là, il faut arrêter ça !» Et donc, ce qui est terrible, c'est que 10 secondes d'émotion comme ça font plus que des heures et des heures de discours intelligent.
Alors, comment faire passer la conception chrétienne de cette question, le fait que la liberté de chacun doit avoir des limites ?
Bien, donc, je dirais d'abord que, vous voyez, elle n'est pas spécifiquement chrétienne, elle n'est pas que chrétienne, ce ne sont pas les chrétiens qui veulent faire passer dans la société leur point de vue. Ce point de vue-là, donc, vient de très loin, encore une fois, il vient de la nuit des temps, il est traditionnel. Beaucoup d'humains, d'humanistes, de non-croyants, y compris par exemple au Comité national d'éthique, ont l'idée que la personne humaine est une réalité transcendante, mystérieuse, qu'on ne peut pas la maîtriser, mettre la main dessus. Autrement dit, qu'il y a une dignité de la personne humaine en tant que telle. Vous voyez, il y a une expression vraiment très trompeuse dans l'association prétendue pour le droit à mourir dans la dignité, comme si la dignité dépendait de qualité de la personne, comme si le fait qu'on est digne dépendait uniquement du fait qu'on a toute sa raison, qu'on n'est pas trop monstrueux, qu'on n'est pas agonisant. C'est pas ça la dignité. Au contraire, reconnaître la dignité de la personne, c'est considérer qu'une personne même très très faible, même défigurée, même souffrante, reste digne, ce qui échappe au pouvoir et à la maîtrise. Et la vie et la mort sont deux réalités qui nous dépassent.
Alors, est-ce qu'il faut y voir justement une évolution dans la conception de la mort, une sorte de mise à l'écart de la mort avec tous les à côté de souffrance qu'elle peut impliquer ?
Oui, il y a un roman de Dostoïevski, Les Possédés, où un personnage qui incarne vraiment la volonté de puissance, selon Dostoïevski, Raskolnikov, a décidé de mettre fin lui-même à ses jours. La mort est la grande limite de notre puissance, incontestablement, c'est vraiment la grande. Il y a aussi la souffrance, il y a aussi le corps, il y a aussi la sexuation, etc. Mais la mort est la principale. Et donc il est certain que dans les fantasmes, décider de l'heure de sa mort serait le sommet de la puissance sur soi. Ce n'est pas être fidèle à la logique de la vie, qui est une logique de démaîtrise, finalement d'abandon. Vous voyez, je crois que ici, il n'y a pas seulement cela qui est en jeu, hein, j'insiste, il y a aussi la médecine. Il n'y a pas que le sens de la vie qui est en jeu, il y a le sens de la médecine. Le rôle d'un médecin n'est pas de donner la mort. Et où allons-nous si on commence à dire que le médecin peut le faire ? Il faut bien savoir qu'il y a dans l'être humain des pulsions de mort, un désir de mort qui peut être très, très violent. Et un des rôles de la loi est de mettre une limite à cela.
Je voulais revenir un peu sur le rôle à jouer, le rôle de la famille dans l'accompagnement vers la mort. Est-ce que ce rôle a changé ? Est-ce qu'il y a une moindre acceptation du rôle d'accompagnement ?
L'entourage compte beaucoup lorsque l'on est souffrant ou fragilisé. Il est certain que si vous avez autour de vous un entourage submergé par l'angoisse, un entourage qui a hâte que vous mouriez, un entourage donc qui vous trouve encombrant, si vous le sentez, eh bien il est évident que vous n'aurez pas la même relation à la mort et à vous-même que si vous sentez un entourage paisible qui vit au jour le jour et qui accompagne les souffrances dans le présent. Une solution violente, une solution directe comme donner la mort ne peut pas être encadrée par la loi parce que trop souvent ça pourrait dépendre de l'entourage une telle demande, consciemment ou inconsciemment.
Parce que justement, la souffrance n'est plus perçue comme quelque chose d'acceptable.
Oui, à ce moment-là, les proches veulent éviter aussi bien leur souffrance à eux que la souffrance de la personne concernée.
Alors, vous l'avez souligné, cette pensée ne concerne pas que les chrétiens, mais est-ce que vous pourriez revenir sur le sens particulier qu'elle prend pour les chrétiens, justement ?
Pour les chrétiens, la mort est un passage. Alors, nous le disons dans la foi, cela, hein, parce que nous n'avons pas un savoir spécial sur la mort. Ce n'est pas un savoir, la foi. Et au fond, donc, pour nous chrétiens comme pour les autres, la mort, c'est l'inconnu, l'inconnu total. Ce qui est à craindre le plus, le mal absolu pour nous chrétiens, ce n'est pas la souffrance, encore que nous soyons donc partisans de la soulager. N'oubliez pas que Jésus a passé en Galilée en guérissant des malades. Et parmi les pionniers des soins palliatifs, au Canada et en France, il y avait surtout des chrétiens, ne l'oublions pas. Donc nous ne pensons pas que la souffrance est un bien. Le travail des médecins, chrétiens et autres, est de soulager la souffrance. Mais nous pensons qu'elle n'est pas le plus grand des maux, que le plus grand des maux, ce serait de ne pas avoir une relation juste à la vie.